I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mickaël Petrosian.
Je rêvais peut-être de rejoindre l'entreprise familiale, mais en tout cas c'était pas quelque chose qui était inscrit, qui était acquis. Donc même si c'est une entreprise familiale, mes parents, mes oncles, mes tantes, parce qu'en fait c'est vraiment une entreprise familiale dans le sens où il n'y a pas que mes parents, en fait on est vraiment toute une famille en fait derrière cette société. Et on m'a toujours dit en fait, c'est pas parce que tu apportes le nom que tu vas travailler, parce que si t'as pas les capacités en fait, on trouvera quelqu'un d'autre. Et la société a toujours été gérée par des Petrosian, mais si il y a pas de Petrosian qui sont capables de la gérer, on trouvera des managers ailleurs, des gens pour s'entourer, parce que c'est une entreprise en fait, et une entreprise ça se transmet pas comme un sac, comme une maroquinerie, c'est quelque chose de mouvant dans un marché, etc. Donc il faut avoir un certain nombre de capacités, et comme en plus ça fait partie du patrimoine de l'ensemble des actionnaires, chacun veut aussi défendre son patrimoine et veut pas mettre à la tête de son patrimoine quelqu'un qui n'en aurait pas les capacités. Et donc du coup c'est quelque chose que je souhaitais, mais c'est quelque chose pour lequel il fallait que je travaille aussi. Et du coup, pour tout ça, et puis en ayant vu beaucoup mes parents énormément travailler avec plein de difficultés, ils ont traversé de nombreuses crises, il y a eu des moments très hauts, des moments un peu plus difficiles. Et donc je m'étais dit, Petrosian, j'aime bien, c'est mon nom, mais c'est pas forcément là-dedans que je me vois. Moi, je me voyais un peu indépendant.
Si je vous dis Petrosian, vous pensez caviar et saumon fumé, et vous avez bien raison, car Mickaël Petrosian est l'héritier de la marque du même nom. Lui qui ne se destinait pas forcément à rejoindre l'entreprise familiale, il a commencé dans la finance puis ouvert la chaîne de restaurants à Dim Sum Yum, a finalement pris les rênes de cette marque centenaire et l'emmène aujourd'hui à se renouveler, à se moderniser avec tact. La preuve avec le lancement récent de Manchouk, un service plus accessible de plats à emporter et en délivrer russo-arménien. Belle réaction à la crise actuelle. Avec Mickaël, nous avons parlé de questionnement, d'esturgeon et de désacralisation. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Tu viens de lancer Manchouk récemment, une nouvelle offre autour de recettes plus personnelles, arméniennes ou russes, en vente à emporter ou en delivery. Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps, ou c'est une façon de s'adapter à la crise actuelle ?
Alors effectivement, on vient de lancer Manchouk. Alors c'est un peu des deux, parce que en fait l'idée elle est née pendant le premier confinement. Parce que déjà, c'était un moment où j'avais un peu plus le temps. J'étais un peu stressé. Donc, je cuisinais pas mal. Ça me déstressait. Et notamment des recettes familiales, vieux livres de famille, dans les recettes que j'avais écrites quand j'étais avec ma grand-mère, etc. Et j'ai commencé à refaire ces recettes-là. Et je me suis dit, c'est pas mal. Mes enfants, ma femme aimaient bien. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis quand on a réouvert le restaurant en juin 2020, quand on a pu réouvrir, la réouverture a été un peu difficile. Parce qu'on est un restaurant gastronomique avec un volume de table avec des touristes normalement, etc. La réouverture, on n'a pas fait du tout les chiffres qu'on espérait, et je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que ça serait si j'avais fait une offre complètement différente, si peut-être j'avais fait les plats de ma grand-mère et des choses un peu plus festives qu'on puisse partager avec des amis et pas forcément à deux dans un restaurant un peu feutré. Et quand on a refermé après, je me suis dit il faut que la vraie réouverture, je fasse quelque chose de différent. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir avec mon chef aux recettes familiales, et on s'est dit tiens, c'est pas mal, et on va le tester en vente à emporter. Et on s'est dit on va réfléchir ces recettes pour faire de la vente à emporter. Et donc du coup on a lancé l'offre. Et pour l'instant, ça se passe super bien. On est très content du début. On commence à avoir de la presse en plus. Donc c'est sympa. Et on a des bons retours de clients, y compris des gens de la communauté arménienne, parce que c'est une cuisine arméno-russe. C'est ni arménien ni russe. Comme nous, on n'est ni arménien ni russe. On est des Russes d'origine arménienne. Et donc, c'est vraiment la cuisine familiale, la cuisine qu'on mangeait chez ma grand-mère.
C'est les vraies recettes.
Et c'est les vraies recettes, voilà.
De la famille
Petrosian. Exactement, c'est les vraies recettes de ma grand-mère, donc avec des choses qu'elle nous faisait souvent et des choses qu'elle nous faisait un peu moins souvent, qui étaient un peu les repas de fête, comme les mantis, parce que c'est très long à préparer.
C'est les petits raviolis,
ouais. Exactement. Et à côté de ça, voilà, il y a les plats qu'on mangeait très régulièrement, comme le borscht, comme les pirojki, comme le pirogue, comme le tarama, voilà, plein de choses comme ça. Et donc on retrouve plein de goûts de notre enfance et mes parents, mes oncles, mes tantes, et y compris après des gens de la communauté arménienne sont ravis de pouvoir retrouver ces plats.
Et c'est vrai que c'est même nous, enfin c'est une cuisine qu'on connaît, enfin moi en tout cas que je connaissais assez peu, et je trouve que qui se prête vachement bien à manger à la maison, à réchauffer facilement, et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir s'immiscer dans les racines de la famille.
Complètement.
Et pendant le premier confinement, on t'en parlait aussi, vous avez lancé les paniers particuliers. Vous avez montré que vous étiez capable d'être super agile. En même temps, pour une entreprise qui a résisté à deux guerres mondiales, c'était facile.
Non, c'était pas facile parce qu'en fait, cette crise, vraiment, personne ne pensait que ça prendrait cette ampleur. Du coup, en fait, pendant le premier confinement, nous, il y a un pan d'activité. Alors, les gens connaissent notre activité de restaurant, notre activité de boutique. En revanche, on a une grosse activité qui représentait 60% du chiffre d'affaires, qui est la distribution. Donc, on vend nos produits à des hôtels, à des restaurants, à des compagnies aériennes, dans des aéroports, etc. Et ça, cette activité-là, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Et donc, du coup, il y a eu un moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que nos boutiques, alors il y en a certaines qu'on avait fermées parce qu'elles étaient dans des grands magasins, etc. Certaines qu'on avait laissées ouvertes, comme celle de la boutique historique, boulevard de la Tour-Maubourg. Et donc, avec une seule boutique, clairement, on faisait rien du tout, on faisait pas de chiffres, même les clients avaient peur de venir. Enfin, ouais. Le premier confinement, c'était un peu particulier. Et on s'est dit très vite, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est là où on a eu l'idée de... Donc moi, j'étais en contact avec nos chefs clients, nos chefs amis, etc. Et on s'est dit, mais on peut peut-être faire quelque chose ensemble où on appelle les producteurs. Vous faites des recettes avec des produits de que vous cuisinez, des légumes et puis des produits Petrosian, et on fait un panier commun et on reverse une partie du chiffre d'affaires du panier à des associations que vous aurez choisies, etc. Et donc ça a plu à pas mal de chefs. Donc c'est Adeline Grattard qui a été la première à faire le premier panier. Et donc, du coup, on a fait vraiment ça avec les moyens du bord. Donc, chaque chef prenait une petite vidéo d'un geste lui-même, chez lui. On a contacté les producteurs qui pouvaient travailler. Et on a commencé à constituer des paniers. Et ça, ça a bien marché. Les clients étaient au rendez-vous. Et on a monté ça très vite, en 2 semaines. Donc, effectivement, on a été très agile.
Ouais, ouais.
On a été très agile. Mais parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on puisse travailler. Et malheureusement, on avait tellement d'activités qui étaient arrêtées que la seule activité qui pouvait continuer, c'était le site internet. Et on s'est dit, comment faire en sorte que les gens, on leur donne envie d'acheter nos produits et de cuisiner, etc. Et voilà, et on a trouvé que cette association avec les chefs était sympa. Et c'est comme ça qu'on a lancé ça. Et après, on a fait plein de chefs. On a fait même des paniers à 6 étoiles. Et on avait 2 chefs 3 étoiles qui ont cuisiné ensemble. On a fait, et on a continué après. Donc, ça a duré pendant tout le premier confinement. Et après, on a refait une autre opération au moment où les restaurants ont fermé, mais là de manière un peu différente. Où là, c'est nous qui cuisinions, en fait, nous au restaurant, je parle, des plats de chefs. Mais là, c'était pas simplement des chefs français, c'était aussi des chefs suisses. On allait chercher un peu plus loin, et ça a duré jusqu'en février. Ouais.
Jusqu'à aujourd'hui, donc le lancement de Manchu qui occupe les cuisines du restaurant gastronomique
exactement.
En attendant qu'on
puisse faire.
C'est quelque chose que vous allez continuer quand même, Manchu.
Je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'on va continuer. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, vraiment, à un moment, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait ouvrir un restaurant gastronomique avec des jauges à 50%, avec des gens qui veulent pas forcément passer trop de temps à table. C'est vraiment les difficultés qu'on a eues quand on a réouvert en juin 2020. En fait, c'est les gens venaient au restaurant parce qu'ils avaient vraiment envie de sortir, mais en même temps, ils avaient peur. Il y avait l'histoire du masque, il y avait l'histoire de pas passer trop de temps dans un endroit fermé, etc. Nous, on n'a pas de terrasse, et puis manger du caviar en terrasse ou des produits, ce qu'on servait, c'est compliqué. Et du coup, on s'est posé la question de se dire, comment on peut transformer ce restaurant, faire un restaurant plus simple, plus familial, avec des recettes plus généreuses. Et c'est en ça que l'idée de Manchouk, on s'est dit, on va le tester d'abord en vente à emporter. Et si ça fonctionne, vraisemblablement qu'on va transformer le restaurant en Manchouk et servir pendant un temps au moins ces plats-là au restaurant, avec des grandes tablées, avec des tables bien garnies, des réunions de copains et un peu de vodka. et puis voilà.
Se réinventer avec ce nom auquel il faut faire honneur, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité.
C'est clairement de la pression, mais après, moi, j'ai la chance de faire vraiment un métier passion, je l'ai choisi. J'y suis pas venu tout de suite d'ailleurs, parce qu'il y a certains moments, je me sentais pas prêt, peut-être pas légitime. Et donc, quand je suis venu, je suis venu de manière très entière et donc vraiment pour exercer un métier, mais surtout une passion, passion de transmettre, passion des produits, des beaux produits, proche des clients, transmettre de l'émotion, etc. C'est une pression. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien réfléchi à la base et vraiment de voulu, quoi. Donc, du coup, je peux pas me plaindre.
Tu rêvais pas du tout de rejoindre l'entreprise familiale quand tu étais enfant ?
Non, en fait, alors je rêvais de... Enfin, je rêvais peut-être de rejoindre l'entreprise familiale, mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui était inscrit, qui était acquis. Donc même si c'est une entreprise familiale, mes parents, mes oncles, mes tantes, parce qu'en fait c'est vraiment une entreprise familiale dans le sens où il n'y a pas que mes parents, en fait on est vraiment toute une famille en fait derrière cette société, et on m'a toujours dit en fait c'est pas parce que tu apportes le nom que tu vas travailler, parce que si t'as pas les capacités en fait on trouvera quelqu'un d'autre, et la société a toujours été gérée par des pétrociens, mais si il n'y a pas de pétrociens qui sont capables de la gérer, on trouvera des managers ailleurs, des gens pour s'entourer, parce que c'est une entreprise en fait, et une entreprise ça se transmet pas comme un sac, comme une maroquinerie, c'est quelque chose de mouvant dans un marché, etc. Donc il faut avoir un certain nombre de capacités, et comme en plus ça fait partie du patrimoine de l'ensemble des actionnaires, chacun veut aussi défendre son patrimoine et veut pas mettre à la tête de son patrimoine quelqu'un qui en aurait pas les capacités. Et donc du coup c'est quelque chose que je souhaitais, mais c'est quelque chose pour lequel il fallait que je travaille aussi. Et du coup, pour tout ça, et puis en ayant vu beaucoup mes parents énormément travailler avec plein de difficultés, ils ont traversé de nombreuses crises, il y a eu des moments très, voilà, très hauts, des moments un peu plus difficiles. Et donc je m'étais dit, voilà, moi, Pétrosian, j'aime bien, c'est mon nom, mais ce n'est pas forcément là-dedans que je me vois. Moi, je me voyais un peu indépendant. Je me voyais faire autre chose, j'aimais bien la gestion, la finance, etc. Et c'est pour ça que je suis devenu expert comptable, parce qu'il y avait cette dimension où je pouvais être entrepreneur, en fait, avoir mon propre cabinet, mes propres clients, une certaine indépendance. Et puis en même temps, pas être loin des affaires, parce que c'est quand même quelque chose, j'aime bien les entreprises, j'aime bien l'entreprise. Et donc voilà, très naturellement, je suis allé vers j'ai commencé par de la gestion, puis après je me suis renseigné, je suis allé vers l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, et puis vers le conseil dans lequel j'ai travaillé. Je travaillais pour un gros cabinet de conseil pendant 7-8 ans.
Tout en gardant un pied
Ouais,
ici,
alors,
parce que tu faisais des extras. J'ai vu
exactement.
tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs
Exactement,
de tes
exactement.
18 ans jusqu'à ce que.
Jusqu'à, ouais, jusqu'à à peu près 25 ans. Parce que, alors, ça, c'était mon deuxième. En fait, quand j'ai eu mon bac, il y a eu un moment où je me suis posé la question d'est-ce que je ne devenais pas cuisiner, parce que j'adorais cuisiner. Ça a toujours été une passion. Ça a été transmis par ma famille de manière générale, mais par ma grand-mère, par des oncles, en fait, qui étaient très, très bons cuisiniers et avec qui je cuisinais tout le temps. Donc, je pense que j'étais un des premiers petits à écrire des recettes parce que je voulais que tout soit écrit. Je voulais qu'il y ait vraiment cette transmission et tout. Et je voulais vraiment que ça soit rigoureux, que ça soit donc les mesures. Ma grand-mère, je la tannais toujours pour donne-moi les mesures des trucs. Alors qu'elle, elle cuisinait vraiment de manière très instinctive. Donc, elle, il n'y avait jamais de mesure, en fait. Donc, c'était. Elle prenait des poignées, elle prenait elle avait sa mesure, elle, c'était le doigt, en fait. Donc, elle disait un doigt de farine, un doigt d'huile, etc. Et à chaque fois, moi, je ne comprenais rien à ces mesures. Je me dis, mais c'est quoi, mamie, un doigt de farine? Elle me dit, bah, c'est facile, tu prends un pot de yaourt et tu mets ton doigt dedans. Tu remplis de liquide et tu mets ton doigt dedans et ça fait le
Un
doigt de
doigt.
farine, le doigt de. Donc, je me dis, mais c'est quoi comme yaourt? Quelle marque? Quel pot? Etc. Donc, moi, c'était toujours un peu un stress, ces histoires de mesures. Tu vois, je voulais toujours convertir quand c'était des liquides. Je voulais que ce soit des millilitres ou des centilitres, pas des grammes. Enfin, voilà. Donc, j'étais assez sérieux dans la. Je prenais ça au sérieux, en tout cas, les recettes. Et donc, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter d'être cuisinier voilà, mais sans du tout savoir ce que c'était, sans du tout savoir, enfin savoir ce que c'était un peu, je savais un peu parce que donc on
Tu
avait
les
des
voyais
restaurants,
ici, oui.
etc. Je les voyais ici, mais sans savoir tout le travail qu'il y avait derrière, sans savoir bah, qu'il fallait, enfin qu'un cuisinier, c'était pas qu'un cuisinier, c'était aussi un meneur d'hommes, que c'était où il fallait faire de la gestion parce qu'un restaurant c'est une entreprise. Enfin, il y a plein plein de choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de bah, savoir, c'est de faire, en fait. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé au restaurant ici, en tant que commis. Ça m'a bien plu. J'avais la chance d'avoir, à l'époque, Philippe Conticini comme chef. Donc, du coup, bah, on apprend énormément. Il y avait toute une équipe. Il y avait une quinzaine de personnes en cuisine, avec des pâtissiers, enfin, voilà, des gens, des sommeliers. Il y avait des gens exceptionnels. On avait une étoile Michelin, en fait, à l'époque. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment un super apprentissage. Et donc voilà, et donc j'ai quand même décidé de pas de prendre des études, de faire des études, mais par contre j'adorais cette ambiance. On était une équipe hyper soudée, et en fait tous les vendredis et les samedis soirs, bah en fait j'adorais venir ici. C'était pour moi, c'était presque comme une sortie. D'ailleurs, on sortait après, on allait tous en boîte avec les équipes, et c'était vraiment des moments géniaux, voilà, comme une équipe de foot, comme une équipe de rugby. On était vraiment tous ensemble, on terminait le service, on nettoyait la cuisine et on sortait.
Mais t'as tenu bon quand même, t'es resté,
Et ouais, je
enfin
suis resté
t'as
parce qu'à chaque fois
continué.
j'apprenais plein de trucs, je changeais voilà, je suis passé de commis à chef de partie, j'étais super content, et puis j'apprenais des choses. Et puis quand je cuisinais après pour mes amis, je sentais qu'il y avait que les gens disaient, ah, c'est bon, etc. Et donc voilà, très vite j'ai été identifié comme le cuisinier de ma bande de copains, et je recevais tout le temps. J'adorais recevoir, j'adorais cuisiner pour eux, et je faisais des dîners parfois pour 20 personnes, quoi. C'était, je pouvais passer un samedi entier en cuisine, ça me dérangeait pas du tout. Et voilà, j'adorais recevoir, j'adorais cuisiner pour eux. Et puis voilà. Et puis après, à un moment, ça s'est arrêté, puisque pour le coup, j'avais moins de temps. Je commençais à avoir un vrai travail à côté. Et puis je commençais à avoir une copine et tout. Et donc, les week-ends, pas être là le vendredi soir et samedi soir, c'était compliqué. Mais donc voilà, j'ai passé un super moment. Et ça m'a donné, en fait, même si j'ai pas de diplôme de cuisinier à proprement parler, je connais toutes les bases. Donc,
C'est hyper important ça
voilà,
aussi
ouais.
qu'on gère des restaurants.
Ben voilà, c'est ça. Au moins, on sait un peu de quoi on parle. Et puis connaître un peu les produits, savoir comment,
Discuter avec
voilà,
les équipes,
avec
etc.
un poissonnier, avec un boucher, avec un. Donc, enfin, pour moi, c'était une super formation et je suis ravi de l'avoir fait.
Et finalement, c'est à Shanghai que c'est un voyage à Shanghai qui t'a donné envie de revenir vers la cuisine, pas dans le caviar, mais dans le dim sum.
Exactement, ouais.
À la fin, j'allais dire à la fin des années
C'était en
2000,
2010.
2010.
J'ai commencé dans le dim sum en 2000, fin 2009 et j'ai ouvert mon premier resto en 2010 après à peu près 8 mois de voyage, recherche, recette.
Je me souviens à l'époque, je t'avais
Ouais,
interviewé déjà.
exactement. C'était pour l'hôtellerie-restauration, non?
Ouais,
Ouais,
c'était
c'est ça,
ça.
ouais.
Et tu voulais pas trop mettre en avant ton nom de Petrosian, en
Bah ouais.
fait. Enfin, tu voulais vraiment faire tes preuves. Enfin, voilà, à travers ton travail et ce que tu avais imaginé.
Ouais. Ben en fait, ce qui était compliqué, c'est que donc le dim sum, ça a été une révélation pendant ce voyage où on est allé avec ma femme. Enfin, elle était pas ma femme à l'époque, mais on a été faire ce voyage où on a été eux étaient en échange en fait là-bas, donc ils connaissaient bien et c'était des fans de dim sum et je pense qu'on a mangé des dim sum à tous les repas au moins parfois, on faisait 2 déjeuners pour aller tester tout ce qui se passait et quand on est rentré à Paris on s'est dit bon bah là on va arrêter les dim sum et en fait le premier truc quand on a atterri on s'est dit, mais on a trop envie de dim sum en fait. Et donc, du coup, on a cherché à Paris des dim sum. Et donc, on a testé tout ce qu'il y avait de possible, inimaginable. Et on n'a rien trouvé de ce qu'on trouvait voilà, en Asie. Et donc, on trouvait ça en entrée dans certains restaurants, etc. Et puis, voilà, et on s'est dit, pourquoi pas essayer d'en faire. Et en fait, bon, après, c'est un produit qui est très compliqué, comme tout ce qui paraît très simple, en fait, c'est très dur à faire. Et puis, donc voilà, j'ai trouvé enfin, je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle toujours d'ailleurs Benoît Guilbeault, et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble, pas dans notre métier de base, mais dans autre chose? Et du coup, dans le dim sum. Et donc là, il m'a dit, bah, écoute, on y va. Et bah, avec lui, donc pendant un an, on a appris à faire les dim sum, etc. On
Vous
s'est
avez vraiment
entouré.
mis la main à
Ouais,
la
on a
pâte,
vraiment mis
hein, ce
la
que
main à
tu
la
m'avais
pâte, et
expliqué.
etc. Et même si au départ, nos dim sum étaient, enfin, ils étaient bien parce qu'il y avait beaucoup d'amour dedans, mais ils étaient perfectibles. Et après, petit à petit, on a vraiment corrigé ce qu'il fallait corriger, et on a commencé à avoir des beaux produits, voire des très beaux produits. Et on a eu la chance de tomber à un moment où les gens attendaient peut-être ce type de nourriture. Et le succès a été au rendez-vous, mais
Énorme.
dès le départ, assez énorme,
Il y avait la
même plus que
queue
ce
dans
qu'on
la rue des
pensait. Voilà, exactement, il y avait la
Martyrs.
queue. On a eu, je pense, tous les supports de presse possibles et imaginables. On s'est retrouvés avec des stars hollywoodiennes dans notre resto. Voilà, enfin, c'était vraiment un moment fou où parfois on m'appelait, on me dit, il y a Christine Scott Thomas qui veut une table, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, j'en sais rien parce que si on n'a pas de table, on n'a pas de table, quoi. Donc, enfin,
C'était sans
trop.
réservation?
Ouais, c'était sans
Ouais.
réservation, exactement. C'était
Avant l'heure,
ouais, avant l'heure,
enfin,
exactement. Bah parce que c'était tout petit
Ouais.
et qu'on pouvait pas gérer des réservations, des gens qui viennent pas, etc. Et donc voilà. Et donc ça a marché et ça continue de fonctionner puisqu'on a gardé les restaurants et maintenant c'est ma femme qui s'en occupe. parce que mon associé il est parti faire autre chose. Et donc voilà. Et effectivement, si je reviens sur le nom Petrocian, c'est que ben, notre nom il est hyper peu connu pour le caviar, pour le saumon, pour le tarama, etc. Pas pour les dim sum, il n'était pas. Et je voulais pas qu'il y ait d'amalgame en fait entre la marque et les dim sum, même s'il y a toujours des détracteurs, etc. Qui après, même si le rapport était ténu, il disait bon bah c'est, quand tu t'appelles Petrocian, c'est facile de faire des dim sum. Alors je le dis, non, c'est pas facile de faire des dim sum parce qu'il y a aucun lien, il y a aucun savoir-faire, malheureusement aucune passerelle entre la réalisation de caviar et la réalisation de dim sum. Mais bon voilà. Voilà, on peut pas s'empêcher, les gens ne peuvent pas s'empêcher de trouver des liens, surtout les gens qui, eux, n'entreprennent pas, en fait, et qui, du coup, pensent qu'il y a toujours une facilité derrière une entreprise. Et donc voilà. Et donc, du coup, effectivement, je ne voulais pas mettre mon nom en avant pour pas qu'il y ait d'amalgame.
Autour de Youm aussi, tu as créé une gamme pour les restaurateurs et fabriqué aussi à la demande des produits en collaboration
avec des chefs, pour des chefs, pour des grands hôtels, je travaille beaucoup avec des palaces, je travaille aussi avec des brasseries, beaucoup de brasseries, parce que c'est des produits maintenant qui sont vraiment devenus à la mode, que ça soit même les dim sum, mais je fais des nems également, etc. Et c'est vrai que déjà ça m'a permis moi j'ai beaucoup progressé au contact des chefs, parce que quand des chefs me disaient il me faut un produit avec tel produit dedans, etc. Moi je réfléchissais, on faisait des essais, lui il me donnait son sentiment, il me donnait des techniques, etc. Donc on a bien évolué. Et puis après, on a beaucoup évolué aussi au contact de chefs asiatiques. Et puis petit à petit avec le temps aussi. C'est-à-dire que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des dim sum. Donc on a progressé dans le choix des farines, dans le choix du matériel. Et puis même les équipes. En fait, les équipes sont les mêmes depuis l'ouverture. Mon chef est le même, donc il a vraiment progressé avec le temps, et aujourd'hui on a des dim sum exceptionnels, et même y compris des grands chefs étoilés et non étoilés, chinois ou pas chinois, sont là en train de reconnaître en fait la qualité des produits, quoi. Donc ça, c'est valorisant.
Comment a réagi ta famille quand tu leur as dit que tu te lançais dans le dim sum et pas dans le caviar?
Eux, ils ont toujours mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais. Enfin, mon frère, c'est pareil. Hein. Donc, ils nous ont toujours dit si vous faites ce que vous aimez, vous serez bon dans ce que vous faites, et donc du coup, vous serez content. Et du coup, comme vous serez content, vous serez heureux. Et puis voilà. Donc pour eux, c'était ils aimaient bien le côté expert comptable, etc. Ils trouvaient ça rassurant. Ils ont un peu plus peur sur le côté dim sum en se disant il y a un risque. Mais en même temps, le côté moi, je suis quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, même si j'ai mon petit côté créatif. Donc voilà, ils se disaient s'ils tentent quelque chose, puis j'avais pas de gros risques, j'avais pas d'enfants à l'époque. Donc ils se sont dit tente, travaille, et puis si t'as besoin de nous à un moment, on sera là et on t'aidera à te relever si tu tombes, et puis si tu tombes très fort, on t'aidera encore. Voilà, donc vraiment c'est toujours, ils ont toujours été bienveillants, et ils ont toujours été à nous dire tente. Si tu tombes, c'est pas grave, t'en ressortiras quelque chose de positif, t'apprendras quelque chose. Et moi, aujourd'hui, j'en suis convaincu, et c'est comme ça que j'éduquerai mes enfants, en leur disant l'échec fait partie de l'apprentissage. Si tu tentes pas, tu sauras pas pourquoi ça a marché ou pas marché. Donc essaye, quoi.
Et c'est cette expérience, finalement, et c'est le fait que tu tentes l'aventure de l'entrepreneuriat aussi, qui a fait que ton père, à un moment, t'a appelé pour venir aider dans le groupe.
Oui, je pense que effectivement ça a aidé, ça donne enfin moi ça m'a construit une carapace. parce qu'on a eu un beau succès et puis parce que ça n'a pas été facile, parce que je me suis planté aussi sur des choses. J'ai eu des échecs, j'ai eu des déconvenues, plein hein, d'ailleurs, plein de moments où je pensais que c'était acquis et puis bah non. Donc voilà. Et effectivement, cette dimension entrepreneuriale couplée à cette dimension finalement de gestion d'entreprise, etc. Je pense que c'est ça qui alors il n'y a pas eu un appel officiel en fait, c'est-à-dire que ça a été plus doux en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'occuper du restaurant, puis après petit à petit j'ai commencé à m'occuper du développement, puis après j'ai commencé, et donc en fait comme on est vraiment dans une entreprise familiale, il faut créer je dirais un peu sa place. Sans reprendre la place de quelqu'un d'autre, parce que là c'est compliqué, donc il faut créer son métier en fait, je dirais. Et puis après, une fois qu'on a créé son métier, on rayonne, et comme on rayonne, et du coup les gens vous font confiance, et puis on commence vraiment à trouver sa place comme ça. Et donc mais si on attend qu'on vous donne le truc en disant voilà, ça y est, maintenant toi tu t'occupes de ça, etc., ça fonctionne pas, enfin en tout cas pas chez nous. Donc nous, c'est le principal, c'est d'être là et de commencer à observer, et en observant, de faire, et puis en faisant, très vite, les gens vous font confiance et vous appellent, et puis après, vous devenez indispensable, quoi.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? De venir tout court.
Qu'est-ce qui m'a donné envie de venir? Après, c'est des produits déjà que j'adore. C'est une très belle marque, etc. Et puis à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit si j'ai la chance de pouvoir le faire, est-ce que j'aurais pas de remords si je la laisse passer? Donc ça a été un vrai moment de questionnement. Et je me suis dit, j'ai pas envie de laisser passer cette chance-là. Et puis, c'est arrivé aussi un moment où mon père avait besoin d'aide, où mon frère était aussi en train de prendre des responsabilités aux États-Unis, etc. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le bon moment d'y aller. Dans quelques années, il sera trop tard. On aura fait d'autres choix, etc. Et puis même moi, je serai ailleurs. Et donc voilà. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de laisser passer cette chance là. Et du coup, je suis ravi. Et puis après, c'est quand même une société que je connais quand même relativement bien. Je la connais vraiment de l'intérieur, etc. Je connais bien les gens. Et donc ça s'est fait après assez naturellement.
Et donc t'as commencé par le reste. J'ai commencé par le restaurant. Déménager.
Pas tout de suite en fait. Il était au-dessus de la boutique historique. Donc j'ai commencé par le reprendre de manière recruter une nouvelle équipe, etc. En me disant ça va être facile, et en fait ça n'a pas du tout été facile parce que il y avait plein de choses à changer, parce que en plus je pensais que j'allais pouvoir, en changeant des petites choses, j'allais pouvoir trouver une nouvelle clientèle, etc. Je me suis aperçu qu'aussi ça c'était beaucoup plus long que ce que j'avais pensé. On est dans un quartier qui est le 7e arrondissement, qui est un quartier assez traditionnel, etc. Il y a certains codes qu'on bouge pas. Voilà, donc j'ai vraiment appris, c'est-à-dire que quand j'étais chez Youm, j'étais seul décideur avec mon associé, on faisait des choses, on est dans un quartier dans le 9e où tout ce qu'on pouvait faire, c'est pas grave, il y a pas de nappe, c'est pas grave. On était dans un esprit un peu cantine, on avait pas du tout une clientèle traditionnelle qui payait cher pour son repas. Donc il y a plein de choses qu'on pouvait tenter, il y a plein d'imperfections qui pouvaient passer sous le coup de ça fait partie, il y a de l'ambiance, alors que dans un restaurant gastronomique, il y a quand même des codes à respecter. Il y a un cadre, on peut pas faire du tout ce qu'on veut, et donc je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas faire, et donc ça a été aussi un vrai apprentissage qui a pour le coup un vrai carcan, et donc ça a été long, ça a été parfois un peu douloureux, et puis il y a eu des petites victoires, et puis après ça a commencé à prendre, et après on a été assez contents, et après effectivement on a eu l'opportunité de se déplacer en face et d'avoir un restaurant avec pignon sur rue, etc., ce qui est quand même beaucoup plus facile à travailler qu'un restaurant au premier étage où on se retrouvait Bah, très vite avec une clientèle uniquement en réservation, très peu de passages, donc et puis ce côté un peu endroit d'initié qui peut faire peur à certaines personnes, alors que là, un restaurant qui a pignon sur rue au rez-de-chaussée, c'est quand même différent.
Puis là, tu avais à repenser le décor, le concept, tu as mis mettre complètement ta patte aussi dedans et ton père, il t'a tout de suite, ton père et le reste de la famille, de l'équipe, ils t'ont fait confiance.
Ouais. Alors ça, c'est ça fait partie quand même de l'expérience. C'est-à-dire que quand je suis arrivé avec un projet et je leur ai dit voilà, pour moi le restaurant, il faut que ce soit ça. Et donc le projet, je l'avais suffisamment bien travaillé pour qu'il soit bien construit. Et voilà, ils ont adhéré au projet. Après, la seule difficulté, c'est que malheureusement, je pense qu'on n'a pas eu suffisamment le temps de s'exprimer dans ce restaurant, parce qu'on est tombé, on a ouvert juste avant la crise des gilets jaunes. On a eu un an de crise des gilets jaunes. Après, on a eu les grèves. De décembre, puis le Covid. Et puis là, finalement, comme on le disait tout à l'heure, je pense que, en tout cas, moi, j'ai moins envie de cette cuisine gastronomique, j'ai moins envie de passer du temps à table. Et donc, je pense que pour mes clients, ça doit être un peu pareil. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de changement. Donc, on y reviendra peut-être à un autre moment. Mais voilà, le contexte n'était pas idéal, même si ça a bien fonctionné et que j'étais content du démarrage. Malheureusement, j'aurais voulu que ça y ait plus de durée, mais bon, voilà, le contexte a fait que c'est différent et qu'il faut s'adapter, quoi.
Et c'est l'exemple même de, enfin, le travail que tu as fait sur le restaurant et son évolution, de comment rester actuel avec un héritage aussi très très ancestral, sans l'oublier, et réussir à ne pas vivre dans le passé. C'est aussi tout le travail que tu mènes sur la boutique et sur le reste des activités du groupe.
Effectivement, en fait, c'est vraiment le gros challenge, en fait, avec une marque comme Petrosian, c'est d'arriver à faire que, donc, on est une marque centenaire, donc on pourrait être, on est une vieille dame, en fait, et en même temps, on s'est rendu compte pendant cette crise qu'on pouvait être assez agile, qu'on pouvait innover, parce qu'on a toujours beaucoup innové, mais qu'on pouvait peut-être faire savoir et puis travailler nos innovations pour que les gens puissent les connaître un peu plus rapidement et en faire partie, etc. Et ça fait partie de notre esprit, de l'esprit Petrosian, où on a ce pied dans la tradition, et en même temps on a beaucoup d'innovations, on a un petit esprit impertinent, on aime bien tenter des nouvelles choses, on aime bien que les choses soient pas figées, qu'on aime bien se remettre en question, etc. Et donc c'est ça le challenge, effectivement, c'est d'arriver à faire en sorte que Petrosian soit encore un vrai challenger, qu'on puisse sortir de nos produits phares et des produits pour lesquels on est connu, comme le caviar, comme le saumon, et innover vers d'autres produits, aller vers d'autres produits, mais tout en ayant en respectant ce savoir-faire, en respectant nos traditions. Et donc c'est un savant mélange, en fait, entre ces différentes choses, et qui fait que qu'on a un pied dans la réalité d'aujourd'hui et qu'on reste actuel et qu'on reste désirable.
Et c'est, ouais, vous avez pas peur, en tout cas, effectivement, comme tu disais, d'innover. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu bluffé, les innovations R&D. Je crois que ton père, il s'amuse beaucoup avec ça, ce qu'on m'avait dit.
Ouais.
Le caviar liquide, les feuilles de caviar.
Exactement, les feuilles.
Le caviar à râper aussi, non?
Voilà, c'est moi, voilà. Et comme quoi, voilà, il y a vraiment cet esprit commun. Ouais. Donc, ouais, effectivement, c'est de pouvoir s'amuser avec la matière sans la dénaturer, sans la trahir, et en évitant, en fait, toutes les fioritures. Ce qui est important, en fait, pour nous aujourd'hui, nos produits sont des produits qui provoquent une émotion, en fait, chez les clients, et ils sont on a la chance d'avoir des produits qui sont associés généralement avec un moment qui peut être un moment unique. On a plein de gens qui nous disent je me rappelle d'avoir mangé du caviar le jour où j'ai fait ma demande en mariage, je me rappelle le jour où j'ai eu mon concours de médecine, mon père m'a offert une boîte de caviar, etc. Et on a de la chance d'être associé à ces moments d'émotion, ces moments d'exception, etc. Et nous, ben, dans nos perspectives, etc., on se dit ben voilà, on va essayer de les multiplier en fait, ces moments d'émotion, ces moments exceptionnels. Les moments où on pense à Petrosian, on va essayer de les multiplier par justement des innovations, des créations produits qui font que ben voilà, un caviar séché, c'est facile à garder, on le garde, on n'a pas besoin de le mettre au frais et on peut le mettre sur ses œufs quand on a envie de pimper un peu une omelette. Et puis ben, le caviar à râper, c'est venu comme ça aussi en fait, c'est venu en train de se dire voilà, la poutargue, c'est un produit qu'on vend beaucoup, qu'on aime bien. Pourquoi pas essayer de faire une poutargue de caviar? Et là, voilà, on part avec nos équipes dans la recherche. Et parfois, ça marche. Il y a plein de trucs qu'on n'arrive pas à faire finalement, ou qu'on fait pas parce que ça vaut pas le coup, parce que c'est pas bon. Et voilà. Et il y a des trucs. Parfois, il y a des petites pépites qui sortent. Mais ça nécessite voilà de toujours penser, et toujours être à l'écoute, regarder ce qui se passe à côté, regarder ce qui se passe à l'étranger quand on peut voyager. Et puis voilà. Et c'est ça vraiment l'esprit, c'est de considérer que rien n'est acquis et de remettre toujours tout en question.
D'ailleurs, vous avez développé une nouvelle gamme aussi cette année autour de la truffe, et il y a d'autres choses aussi, enfin d'autres satellites comme ça, je crois que vous voulez continuer à développer.
Oui, alors la gamme autour de la truffe, c'est effectivement pour se dire on a toujours fait de la truffe, on a toujours fait des produits à base de truffe, mais on n'avait pas d'environnement dédié à la truffe, et la marque Petrosian est tellement forte sur le caviar et sur les poissons fumés que bah, finalement les gens ne pensaient pas à nous pour ces produits-là, alors qu'on avait un vrai savoir-faire, qu'on a nos propres cuisines où on fait toutes nos sauces, où on fait tous nos produits cuisinés à base de truffes. Et voilà. Et donc du coup, c'était d'avoir une marque pour avoir une tribune et pour pouvoir dire bah, on va ouvrir un corner dédié à ce produit. Et puis on l'a fait à la grande épicerie dans le 6e. Et puis voilà, et donc là, on n'a que des produits à base de truffes, donc on l'a appelé la truffe par Petrosian. Et puis effectivement, donc ça fait partie du premier satellite. Après, ben, on a Manchouk, qui est la partie familiale, russo-arménienne, etc. On va bientôt avoir une cave à vin, en fait. Donc là, l'idée, c'était 99% de nos clients, quand ils achètent du caviar, ils nous disent « Mais qu'est-ce que je bois avec le caviar ?» Parce que c'est vrai que c'est un produit qui est cher, on n'a pas envie de se tromper dans l'accord. Et donc, bah, c'est pour répondre à cette question, parce que alors il y a la vodka qui est le plus facile, mais qui convient pas à tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un produit qui est relativement fort. Les caviars sont de plus en plus fins en fait, parce que bah, les goûts évoluent aussi. Et c'est vrai que bah, la vodka avec le caviar, bah, ça peut être trop fort. On peut casser un peu certains goûts. Et donc parfois c'est mieux d'aller vers d'autres choses, parfois peut-être un peu plus inattendu, etc. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit bah oui, on va avoir une offre de vin également pour être en lien avec nos produits et pouvoir proposer un service complet en fait à nos clients.
Et ce sera où?
Et ça sera pour l'instant sur internet.
D'accord.
Donc et puis après bah, j'espère qu'on aura un lieu physique qui sera peut-être à côté d'une boutique, ou peut-être qui pourra vivre tout seul, je sais pas encore. Mais pour l'instant, le début, le lancement, ça sera sur le site, parce que ça nous permet de pouvoir faire les alliances avec nos produits de manière assez facile. Et surtout, en fait, l'offre qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à nos clients de pouvoir, généralement dans le vin, quand tu veux acheter une seule bouteille sur Internet, c'est compliqué, à part des très grands crus très chers. Et là, justement, nous, on est vraiment dans des prix de marché, et on va vraiment pouvoir vendre une bouteille par une bouteille si les gens le souhaitent, quoi.
J'ai une tradition dans mon podcast, c'est que j'ai un petit questionnaire aller-retour.
Ouais.
Ton plat préféré de tous les temps?
Alors, de tous les temps, toujours la pizza. En fait, je suis un fan inconditionnel de pizza. J'en mange, je pourrais en manger, je pense, 3 fois par jour à tous les repas. Et c'est une passion que je transmets beaucoup à mes amis et à mes enfants aussi, qui sont devenus du coup des fans inconditionnels de pizza. Il n'y a que ma femme, en fait, à chaque fois qui ne comprend pas en fait notre engouement de la pizza, alors qu'il est forcé d'en manger de temps en temps, mais qui préfère autre chose. Et donc voilà, moi je teste toutes les pizzas, j'en fais beaucoup, même si malheureusement j'ai pas de four à pizza chez moi. Et comme le four fait partie intégrante de l'expérience et de la cuisson de la pâte, dès que je peux être en extérieur et avoir un four à pain, ou que je peux louer une maison dans laquelle il y a un four à pain, même si la maison est moche, je la loue directement juste pour le four à pizza, et là je suis l'homme le plus heureux. Voilà, donc ouais, le pizza sans hésiter.
Ton livre de recettes fétiche.
Alors, mon livre de recettes fétiche, alors moi je suis un gros consommateur de livres de cuisine. Je pense que j'en ai plus de 500 chez moi. J'ai une grosse bibliothèque de livres de cuisine. J'achète
Tout
tout ce
ce
qui
qui sort.
sort. Et j'adore aussi les vieux livres de cuisine. Alors, j'adore aussi pour les photos, pour les ambiances, pour enfin, comment étaient écrites les recettes, etc. En français, en anglais, j'ai même des livres en chinois, parce que sur les dim sum, alors même si je lis pas le chinois, mais je regarde les photos, je regarde, j'essaye de traduire, etc. Mais celui que je re, enfin sur lequel je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est moderniste. En fait, c'est les 5 volumes. Enfin, c'est vraiment mon livre de chevet, qui m'aide parfois même à m'endormir. Enfin, vraiment, voilà, je découvre tellement de choses à chaque fois. Je les ai tous lus 10 fois, mais j'y reviens. C'est pas forcément des livres avec lesquels je cuisine, parce que c'est toujours très compliqué. Mais par contre, c'est des livres à mettre dans. Enfin, je m'inspire. Puis j'adore, voilà, j'adore les photos, j'adore comment c'est écrit, comment c'est détaillé. Voilà, enfin, si je devais alors,
En
voilà,
garder un,
c'est voilà,
en
en garder
garder
5
un
ou
coffret.
6, parce que il y a aussi le petit manuel avec, mais ouais, c'est vraiment celui-là que vraiment je pourrais jamais m'en séparer, je pense.
Le dernier ingrédient que tu as découvert?
Alors, le dernier ingrédient que j'ai découvert, alors c'est un ingrédient santé, je dirais. Ça s'appelle du pollen de pin sauvage. Alors je sais pas si c'est psycho ou pas, mais c'est censé donner de l'énergie, de la vitalité, etc. Et du coup, je m'étais dit, pendant cette période de pandémie, c'était pas mal de prendre du pollen de pin sauvage. Donc du coup, je prends du pollen de pin sauvage tous les matins. Voilà, alors ça a pas beaucoup de goût, en fait. C'est un goût très légèrement sucré, et je me sens en forme. Donc je
Ça marche.
conseille, ça marche, je conseille le pollen de pin sauvage.
Le truc le plus trash que t'aies mangé?
Le truc le plus trash, alors c'est pas gentil parce que c'est un plat national, mais moi ça m'a. Alors trash dans le sens pas à mon goût, en fait, là, hein, c'est le biche barmak, c'est le plat national kazakh. Donc j'espère que t'as pas trop d'auditeurs kazakhs. Et donc c'est un plat un peu particulier. Donc quand j'étais au Kazakhstan, c'est le truc, on te le met au milieu de la table, c'est vraiment on t'honore quand on sert du bish barmak. Et en fait, c'est de la viande de cheval bouillie qu'on sert avec des pommes de terre et des oignons. Et voilà, et donc moi je
C'était
j'ai pas
compliqué.
enfin, et les pommes de terre sont enfin tout est bouilli, en fait. Donc c'est les pommes de terre sont des pommes de terre bouillies, alors les oignons sont revenus, et la viande de cheval bouillie, et donc c'est hyper fort. Voilà, c'est ce plat, et j'en ai des cauchemars. Voilà, ça a été une grosse crise de fou rire quand on nous a amené ce plat. Voilà, et qu'on nous a servi avec un vin français qui avait été vraisemblablement mal conservé. Et donc, si tu veux, l'alliance du Bijmar, et donc les gens vraiment voulaient nous honorer en nous servant ça, et en nous servant ce vin français qui ça avait dû payer très cher en plus. Et c'était vraiment l'ambiance générale était assez folklorique, et voilà. Et donc ça, c'est pas un très bon souvenir.
Ton dernier meilleur repas.
Alors, mon dernier meilleur repas, c'était d'ailleurs le dernier repas au restaurant que j'ai fait, en fait, parce que c'était juste le lendemain, les restaurants fermaient. Et c'était chez Anne-Sophie Pic à Valence. C'était un grand moment parce que c'était un moment puisque j'ai partagé. C'était la première fois que j'emmenais mes enfants dans un restaurant 3 étoiles. Et du coup, pour que on allait passer, on avait pris vraiment le menu gastronomique, etc. Donc, on passait du temps à table. On a passé, je pense, plus de 4 heures. Et pour leur faire passer un pilule à la pilule, dont bien sûr on ne voulait pas les mettre devant des écrans et tout, pendant une semaine, en fait, on leur a raconté l'histoire de la chef, l'histoire du restaurant, le fait que, alors on leur a menti, mais on leur a dit que c'était le meilleur restaurant du monde. On leur a, même si je pense
C'était
qu'on n'en est
pas
pas
loin,
loin,
voilà.
et du coup, on leur a dit, voilà, on a fait tout un cérémonial et en fait, ça a marché parce qu'ils étaient vraiment comme au spectacle. Ils avaient les yeux pleins d'étoiles, ils sont préparés, ils sont habillés pour leur soirée. Mon fils a voulu mettre une cravate, donc c'était vraiment
Trop mignon.
un truc assez assez mignon. Même ma fille qui a 5 ans, elle était voilà, et du coup ils ont posé plein de questions et l'équipe a été géniale avec eux parce que elle les a amenés en cuisine, ils leur ont fait faire plein de choses ludiques et qui donc eux je pense qu'ils s'en souviennent aujourd'hui de leur expérience. À chaque fois qu'on leur dit c'était quoi votre meilleure expérience récente, c'est toujours Anne-Sophie Pic. Et voilà, et ça a été un moment pour la famille vraiment génial, au-delà bon, bien sûr de la qualité de la nourriture qui était, enfin voilà, on a passé un moment fabuleux, mais tout en fait, et c'est en ça qu'on reconnaît un restaurant de ce niveau-là, c'est que voilà, l'ensemble du moment où on est arrivé jusqu'au moment où on est parti, on a eu plein de surprises et on a été tout le temps, voilà. Dans un moment exceptionnel.
Une technique de cuisine découverte récemment.
Alors c'est pas très récent, mais je la réemploie depuis peu parce que je l'ai retrouvée. En fait, je m'étais acheté il y a longtemps un thermoplongeur et je sais pas où je l'avais mis et du coup je l'ai retrouvé récemment et donc du coup je fais tout au thermoplongeur depuis 3 semaines. J'adore la texture que ça donne notamment aux viandes blanches. Voilà, j'utilise beaucoup mon thermoplongeur, donc cuisine sous vide, et c'est assez pratique en plus. Donc, c'est un thermoplongeur qui est connecté, et donc du coup, je peux mettre à distance en cuisson mes
Ta
aliments
viande,
pour que ça dure 4 heures et que quand je rentre,
c'est ça.
ça soit bien chaud. Et voilà, donc ça, c'est un truc ouais, voilà, que j'ai redécouvert récemment.
Le chef ou la chef à suivre?
Le chef ou la chef à suivre, bah, je dirais, alors là, moi je suis un fan d'Emmanuel Renaud, j'adore Anne-Sophie Pic, puis après
Dans les jeunes, que tu as découvert, que tu as
dans
pu
les jeunes
découvrir.
que j'ai
Pas qu'ils
découverts,
soient pas jeunes, mais.
Mathias Marc, bah, qu'on voit un peu en ce moment. Que j'aime bien et après j'ai plein de bien sûr j'ai pas de noms qui me viennent là comme ça, mais moi je vais tout le temps au restaurant quand je peux avant le Covid, et donc ouais j'adore découvrir de nouvelles tables. Enfin, ouais, Tommy Gousset par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'adore sa cuisine. Après, moi j'adore la cuisine un peu pas trop traditionnelle, pas trop classique. Donc voilà, après j'adore la bouffe italienne. Donc je suis assez éclectique. J'aime bien voilà, j'aime bien tout, j'aime bien aussi des chefs étrangers. J'adore par exemple Jean-Georges. J'adore son approche aussi de la cuisine. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois chez lui à New York. Donc voilà, donc je les suis. Et c'est vrai que sur Instagram, ce qui est top, c'est qu'on peut suivre un peu tout le monde comme ça. Et pendant ce confinement, c'était top parce que justement, tout le monde cherchait à voilà, tout le monde était à la maison, tout le monde avait du temps. Et voilà, et j'adorais de l'émission de Cyril Lignac en passant par Eric Ripper aux États-Unis qui faisait des grilled cheese sandwich. Voilà, j'étais client de tout et j'essayais tout. Donc top.
Ta musique pour cuisiner?
Alors, moi j'adore, j'aime bien, enfin, ça dépend en fait des moments. C'est-à-dire que si je cuisine le matin, je vais avoir tendance à mettre du funk. Si je cuisine le soir, je mettrai plutôt de la soul, style chez la sous, enfin, ou du rock, les Commitments par exemple. Donc ça va vraiment dépendre du moment, mais j'adore cuisiner en musique. Et sinon, parfois, j'écoute beaucoup des podcasts aussi en cuisinant, parce que je trouve que c'est pareil, c'est un moment où enfin, en fait, la cuisine me détend. Donc du coup, j'adore, voilà, j'adore faire autre chose en cuisinant ou parler, quoi, ou parler avec un ami, avec ma femme. Donc la cuisine, enfin, chez nous, c'est la pièce qui vit le plus. Et on passe tous nos repas dans la cuisine et donc ouais, c'est vraiment un moment de partage ou seul effectivement avec de la musique, mais c'est toujours un bon moment la cuisine.
Un compte Instagram que t'aimes suivre?
Un compte Instagram que j'aime, ben, j'aime bien les nouveautés, les bons plans, etc. Donc j'aime bien le compte de Raphaël Marchal en randonnion. Que j'aime bien suivre. Après, enfin, pour le coup, sur Instagram, je suis plein de trucs, quoi, y compris pas de la bouffe, parce que j'adore aussi la mode. Et donc, du coup, je suis plein de comptes. J'adore le sport, donc je suis plein de comptes de sportifs. Ouais, Instagram, ça me permet de voir plein d'environnements différents, et c'est ça que j'aime bien, quoi. Donc c'est vrai que dans les gens que j'aime bien, il y a autant des Italiens pointus pour des trucs de mode, que des sportifs de haut niveau, et que des chefs ou des journalistes gastronomiques qui vont voilà, montrer des trucs que je connais pas et que je pourrais tester quand les restaurants seront ouverts et qu'on pourra enfin revoyager, quoi.
Merci. Le caviar, c'est un produit de luxe qui peut être un peu inaccessible pour beaucoup. C'est un produit que les gens ont envie de goûter. Comment est-ce qu'on, au moins une fois dans sa vie, comment est-ce qu'on le désacralise?
Alors, ça c'est une vraie bonne question, parce que c'est une question qu'on se pose tous les jours, en fait. Effectivement, le caviar, c'est un produit qui est cher, mais en fait, on a une vision faussée du prix du caviar. Si tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens combien coûte une boîte de caviar, tu vas avoir des gens qui vont te sortir des trucs qui sortent de l'entendement, parce qu'en fait, la perception du prix de ce produit est bien au-delà de la réalité. Moi, il y a des gens que je connais qui sont d'un bon milieu, etc., qui vont me dire: je rêve de manger du caviar. Et tu dis, mais c'est un rêve qui est accessible, puisque, enfin, si je donne un prix moyen, on va être à 66 € les 30 grammes de caviar. Et donc, du coup, ben, on peut largement. Alors, ça reste un produit qui
De
est cher,
luxe, mais.
mais ça reste un produit qui est quand même, quand on a envie de se faire plaisir, comme on s'achète une bonne bouteille de vin, on peut s'acheter du caviar sans problème. Et donc c'est vraiment une question qu'on se pose. Et donc déjà, j'aime bien le terme désacralisé et pas démocratisé, parce que pour le coup, je pense qu'un produit de luxe, on le démocratise pas. Et désacralisé, je pense que la meilleure manière de le désacraliser, c'est de multiplier les expériences et les moments où on a envie de le manger, et surtout de le sortir d'un cadre classique. C'est-à-dire que souvent, quand tu penses caviar, tu penses présentoir, tu penses vodka, tu penses Bligny, etc. Et en fait, dire, bah, t'as pas de moment pour manger le caviar. Tu peux manger du caviar à deux devant une bonne série télé, comme pour un anniversaire, comme et t'as pas forcément besoin d'avoir un décorum,
Un
d'avoir une
cérémonial,
ambiance
enfin.
particulière pour manger du caviar. C'est vraiment juste l'envie de se faire plaisir, de partager un bon moment, de vivre une émotion, de vivre, voilà. Et ça, bah, tu le désacralises en multipliant, en fait, ces expériences, tout simplement.
Ce que vous aviez fait aussi avec la collaboration avec Grégory Marchand, et
Ouais.
servir le caviar avec du poulet frit,
Ouais, exactement, c'est ça.
qui
Bah, ça,
permettait
c'était,
de
voilà, ça, c'était un
désacraliser
moment, ça, c'était
complètement.
un truc génial. Bah, ça, c'est un autre, voilà. Donc, ça, c'est un autre chef, moi, que j'avais vu aux aux États-Unis qui avait fait ça, David Chang, et la photo de David Chang avec avec la grosse boîte de caviar et le poulet frit dedans, genre, c'était c'est un truc qui était gardé en, que j'avais gardé en tête, et en en parlant avec Greg Marchand, on s'est dit ben ouais, il y a un vrai truc. En plus, il y avait un vrai truc gustatif, que sur que c'était pas gratuit. Ouais. Moi j'ai pas mal hésité, hein, parce que et d'ailleurs on a des clients assez classiques qui nous ont dit à un moment, voilà, vous êtes allé un peu loin avec cette histoire de poulet frit et caviar,
alors que de l'autre côté de Paris, c'était trop, c'était hyper intéressant.
Exactement. Et là, nous, les gens disaient, ouais, oh là là. Et moi, j'ai même des gens qui m'ont dit, oh là là, vous auriez pu faire un partenariat avec McDo. Et je dis, alors, mais attendez, déjà, Grégory Marchand, je sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est quand même un chef étoilé, etc. Et la qualité de son poulet frit, c'est exceptionnel, et c'est tout aussi exceptionnel que le caviar. Et la combinaison des deux rend l'ensemble exceptionnel. Et donc moi j'ai eu un peu peur au moment de le lancer. Lui était hyper confiant, et je suis ravi de l'avoir fait, et je suis ravi en plus de l'avoir fait avec lui, parce que les produits étaient top, et puis c'est quelqu'un qui a une démarche géniale, moi ça a été vraiment une vraie rencontre. On s'est rencontré au CIRA, alors je le connaissais de nom comme ça, mais je lui avais jamais parlé, et on s'est rencontré au CIRA, le dernier CIRA qu'on ait fait en fait, et tout de suite ça a été un moment d'échange, et voilà, et c'est venu comme une évidence de faire ça ensemble, et ça a été un super moment et super produit.
Qu'est-ce qui rend le caviar Petrosian si unique?
Alors c'est le temps, en fait. Vraiment, le caviar, le caviar, il n'y a rien de plus simple, parce que c'est deux ingrédients, c'est des œufs, des sturgeons, du sel, et tout le travail, en fait, le travail, c'est le temps. Le temps de l'élevage, en fait, de l'esturgeon, parce que c'est un poisson qui est fragile, c'est un poisson qui est capricieux, qui est gros, qui nécessite un vrai temps d'élevage.
Ouais, c'est très long, hein, c'est plusieurs années.
C'est plusieurs années, c'est en moyenne 8-10 ans, en fait. Et une fois que tu as extrait les œufs, c'est le temps de la maturation pour développer les arômes, pour développer la texture, en fait, du grain, et c'est tout ce temps, c'est le respect de toutes ces étapes qui va faire que tu vas arriver à la fin à un produit exceptionnel, et c'est ça qui fait le caviar Petrosian, c'est ce temps. Et bien sûr, toutes les étapes de sélection en amont, parce que bien sûr, on ne travaille pas avec n'importe quelle ferme, on ne travaille pas avec n'importe quel pays, etc., pour avoir une qualité de produit qui nous permette de faire cette maturation et de pouvoir sublimer, en fait, tous les arômes du caviar.
Et vous achetez les œufs si on dit cru, alors, et vous faites la propre maturation, votre propre
exactement,
maturation.
Exactement. En fait, il y a vraiment deux métiers. Il y a le métier de ferme, en fait, qui est l'élevage des esturgeons. Et après, il y a notre métier, qui est notre métier de sélection, donc de ces élevages. Ça, c'est la première partie de notre métier, donc en amont. De conseils, etc., parce que ça prend donc 8-10 ans, mais pendant ces 8-10 ans, il y a plein de conseils qui doivent être faits pour améliorer la qualité du caviar qui va sortir à la fin du processus. Et après, une fois que le caviar est de la bonne qualité, etc., et là vient effectivement toutes ces étapes de maturation qui durent chez nous à peu près entre 3 et 6 mois, et là c'est le temps. Là, c'est le temps, c'est l'analyse, c'est la sélection, et puis après, à la fin, c'est jusqu'au conseil qu'on donne dans les boutiques, où on va dire aux gens, un caviar, une occasion. Et donc, c'est pour ça que chaque client qui entre dans une boutique, on lui fait goûter le caviar qu'il va acheter et qu'il va consommer, parce que un moment, tu as envie d'un caviar qui va être puissant, un autre moment plus doux, un moment croquant, un autre moment plus fondant. Et si tu restes sur le même caviar, tu pourras être déçu à un moment. Et donc, du coup, nous, ce qui est important, c'est que tu es vraiment le caviar du moment. Et donc, quand tu vas dans une boutique, tu goûtes et tu repars avec le caviar que tu vas manger.
Ouais. Ouais, il y a un vrai cérémonial quand on vient dans la boutique. C'est vrai que c'est assez chouette. C'est pas juste un achat, enfin, c'est tout un.
C'est ça, il y a, bah, nous, ce qu'on souhaite et qu'on souhaite garder, et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, c'est justement ce côté expérience. C'est-à-dire que si nos vendeurs, ils ont aucune connaissance et que tu as le même service qu'en achetant sur Internet, bah, les gens, demain, ils achèteront sur Internet. Là, quand tu viens dans une boutique, il faut vraiment que tu aies un échange. Et l'échange, il va même au-delà. C'est-à-dire que nous, on pose des questions aux gens. Comment vous allez manger, avec quoi vous allez manger, dans quel contexte. C'est hyper important. Parfois, les gens, ils sont même surpris de nos questions. Mais c'est très, très important. C'est comme pour un vin. C'est-à-dire que tu ne vas pas apprécier le vin de la même manière en fonction même d'avec qui tu es, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà bu des très grands crus dans un contexte de boulot un peu ennuyeux, etc. Et je ne les ai pas appréciés de la même manière. Si je les buvais avec des gens que j'aime en échangeant, bah là, tout de suite, le vin prend une autre dimension parce que mon palais, il est ouvert différemment, etc. Mais c'est très important pour nous de connaître, de savoir comment les gens vont manger les choses avant de pouvoir leur vendre quelque chose, parce que un produit, parce que ça va vraiment faire partie de l'expérience et ça va faire partie de savoir s'ils vont être contents après et s'ils vont du coup en parler à leurs amis et ils vont revenir.
C'est quel produit marche le mieux dans la boutique?
Alors en volume, c'est le saumon, en fait. C'est vraiment le produit pour lequel les gens viennent, reviennent parfois plusieurs fois par semaine. Et après, je dirais que en notoriété, c'est le caviar, c'est notre produit vraiment, c'est l'expérience ultime quand tu viens chez Petrosian et que tu achètes du caviar. Mais nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que c'est l'expérience ultime, certes, mais par contre, on peut se faire plaisir et on peut avoir des bonnes émotions avec d'autres produits exceptionnels qui ne sont pas du caviar. Donc, tu n'es pas obligé de dépenser pour du caviar et tu peux t'acheter juste une bonne tranche de saumon, une poutargue, un hareng, et là, tu vas vivre quand même un truc sympa. Sans avoir forcément à dépenser de l'argent pour du caviar, et tu le feras peut-être une fois ou de temps en temps, le caviar, mais il n'y a pas que le caviar, et donc du coup c'est important. Et nous, les clients, quand à la période des fêtes, à Noël, ils font la queue parfois même 2 heures pour acheter le saumon qui vient d'être tranché devant leurs yeux. C'est ça qui fait partie de l'expérience. Et donc il y a plein d'autres produits, et on essaye justement d'avoir toujours plein de produits. Et à chaque fois, le point de départ pour faire rentrer un produit chez nous, il faut qu'il soit exceptionnel, il faut qu'il procure quelque chose qu'un autre produit ne pourrait pas procurer.
Ouais, même le tarama, il est exceptionnel. Enfin, c'est vrai que tout est...
Ouais, on essaye de...
Le meilleur que tu puisses manger, finalement.
Ouais, en tout cas, on travaille pour ça.
Toi, qu'est-ce que tu préfères, toi?
Moi, j'aime beaucoup un produit qui s'appelle le saumon suhoi. C'est un produit qu'on a dû lancer il y a 3-4 ans. C'est un saumon qui est préparé un peu comme une charcuterie, comme un pâte à negra. Donc, il est presque confit, en fait. Il est fumé et maturé pendant 60 jours. Donc, on part d'un filet un grand filet de saumon, et on obtient un petit morceau qui fait 120 grammes. Parce que du coup, il a quasiment presque séché, et il se coupe comme une salaison, en fait, comme une charcuterie. Et ça avec un champagne, ou un bon vin blanc, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est un produit que j'adore et que j'adore faire découvrir aux gens, parce que les gens ils vont pas a priori. C'est un produit qu'il faut faire découvrir, mais par contre, dès que les gens l'ont goûté une fois, généralement ils reviennent.
Ça représente quoi pour toi, la cuisine, aujourd'hui ?
Ben, c'est fondamental, en fait. C'est 3 fois par jour. Je cuisine tout le temps. Même le matin, je cuisine. Je peux pas. C'est vraiment. Dès que je suis en vacances, c'est fait partie vraiment intégrante de ma vie. Dès que je suis en vacances, le premier truc que je fais, je regarde la cuisine. Je sais pas, pour moi, c'est une pièce. Je peux pas passer un moment sans cuisine. Et du coup, c'est pour ça que moi j'adore louer des maisons et pas forcément aller à l'hôtel, et ou quand je suis à l'hôtel, il y a un moment j'ai besoin d'aller voir le chef, d'aller voir la cuisine, d'aller voilà, j'adore parce que déjà je fais attention à ce que je mange d'un point de vue voilà de la qualité des ingrédients donc j'aime pas me faire avoir entre guillemets donc j'aime bien contrôler voir ce qui se passe etc. Et j'adore voilà j'adore faire des courses je pense que je suis le seul, je suis le premier au marché le matin quand je suis en vacances et même dans la journée enfin dans l'année
la vraie vie.
dans l'année j'adore aller au marché voilà et j'adore surtout ne pas avoir de liste quand je vais faire les courses donc ça je sais que c'est pas ce qu'il faut faire d'habitude mais voilà j'adore même aller dans un supermarché et me laisser surprendre par des trucs, acheter des trucs que je vais jamais cuisiner après parce que j'ai mes placards remplis de produits secs par exemple ou de condiments que j'utilise peu mais voilà ça me rassure, j'adore avoir plein de choses, avoir les placards bien garnis. Et puis parfois ben je me prends l'idée de dire tiens je vais utiliser ça, je vais me marier avec ça et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas parfois mais voilà, j'adore faire ça.
Comment tu te présentes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, bah je dirais que je suis un entrepreneur repreneur. donc il y a ce côté vraiment reprise d'entreprise puisque c'est vraiment le sujet, on a fait un vrai sujet de transmission, etc. Parce qu'il y a ce côté familial qui est important. Et en même temps, entrepreneur, parce que une entreprise, il n'y a rien de figé, en fait. Donc, c'est surtout pas, tiens, on te donne quelque chose. C'est vraiment, on donne quelque chose qui est en mouvement. Et en fait, on ne donne pas, quoi. On participe au mouvement pendant un temps. Et puis après, il y aura un autre mouvement derrière moi. Et j'espère que le mouvement va suivre. Donc on a notre logo avec le bateau qui est sur la mer et c'est vraiment cette vision là quoi. Donc parfois la mer est calme, parfois là il y a une tempête et le bateau est là et on n'arrive pas au bout et il y a toujours un renouvellement, il y a toujours une continuité et donc il y a vraiment ce côté entrepreneur dans le sens où voilà, il y a chaque jour est différent, chaque jour a son lot de succès, d'échecs. Mais c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est que rien n'est écrit à l'avance. Moi, il y a plein de moments où j'ai un planning avec plein de choses à faire, etc. Mais il y a plein de moments où j'aime bien me laisser surprendre. Et il y a plein de journées qui sont très différentes de ce que j'avais pensé qu'elles seraient, quoi.
Ça y est, on arrive à la fin. J'ai une autre tradition, c'est que je demande une recette à cuisiner à la maison si on veut... Voilà, reproduire une de tes recettes, vu que tu cuisines beaucoup, ouais. Je suis à la bonne porte.
Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire une recette que je fais, que j'ai fait par exemple, une recette que je fais souvent, c'est les boulettes de viande de ma grand-mère. Donc ça, en plus, c'est une recette qui est facile. Et en plus, c'est une recette que j'ai mise sur le blog de Petrosian. Donc c'est des boulettes de viande hyper simples, mais très moelleuses. Et qui sont du coup qui sont panés avec de la chapelure.
Tu utilises quelle viande ?
Et de la viande de bœuf, mais tu peux mettre bœuf et agneau aussi. Moi, je suis pas un grand fan d'agneau, donc j'aime bien que bœuf. Donc c'est et voilà avec très simple avec persil, moutarde, des biscottes qu'on met à l'intérieur de la ou ça peut être de la mie de pain ou voilà c'est pour vraiment donner ce côté moelleux et puis après on les panne et on les cuit à l'huile et ça mes enfants ils raffolent de ça donc je leur ai fait hier et j'adore et ça c'est vraiment pour le coup mon plat de quand je le fais je pense à ma grand-mère, quand je le mange je pense à ma grand-mère et je pense voilà toutes ces tables de fête et tout donc c'est une vraie Madeleine de Proust quoi.
Merci Mickaël.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Mickaël Petrosian, épisode 17 de la saison 4. Pour goûter aux délicieux produits Petrosian, rendez-vous à la boutique historique boulevard de la Tour Maubourg dans le 7e arrondissement et sur le site petrosian.fr. Pour la nouvelle offre Mandchouk autour de spécialités arméniennes et russes, rendez-vous sur Deliveroo. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.